En levant la main, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'il y en a qui connaissent ou qui écoutent l'émission Dans l'œil du dragon? Qui connaît pas mal tout le monde, hein? Ça se passe à Radio-Canada et ça joue aussi en anglais. Moi, j'aime bien cette émission-là. Ça m'inspire toujours de voir les entrepreneurs. Donc, j'aime beaucoup cette émission. Et pour résumer un peu le concept pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est des entrepreneurs qui viennent présenter leur projet d'entreprise à des investisseurs, des potentiels investisseurs et des chefs d'entreprise qui rêvent d'aller plus loin dans leur projet, dans le fond. Et donc, ils vont demander des sommes d'argent quand même assez substantielles pour en échange de parts de leur entreprise, OK? Un peu comme des actions finalement qui rapportent de l'argent s'ils font des profits, si les entreprises font du profit. Et ce matin, je vous suggère de vous asseoir confortablement. Prenez, OK, la grosse tête, là, la tête du multimillionnaire. Et parce que chacun d'entre vous, là, vous êtes des dragons ce matin, vous vous asseyez dans le fauteuil des dragons comme ceux qu'on a ici, là, nos richissimes. Vous allez jouer les dragons ce matin. Donc, faites-moi vos belles têtes de multimillionnaire, là, go, un peu d'attitude. Ouais, OK, c'est pas pire, vous êtes pas mal beaux multimillionnaires, hein? Il s'en passe des affaires dans notre tête, pas le portefeuille, c'est ça, hein? Et de mon côté, donc vous êtes nos beaux dragons, mais moi de mon côté, je me fais la porte-parole de Dieu pour vous présenter son modèle d'affaires, donc on parle business aujourd'hui, et vous proposer de devenir ses associés en investissant dans son projet. On est prêts? C'est parti? Yes? Voici donc le résumé d'entreprise, le résumé du grand projet de Dieu. Dieu veut offrir gratuitement le salut et la vie éternelle au monde entier. Il a donc envoyé son Fils unique qui est mort et ressuscité pour nous et qui est retourné au ciel et nous a envoyé son Saint-Esprit. Et depuis, Dieu se cherche des associés pour annoncer cette bonne nouvelle et pour être des intendants des ressources que Dieu nous donne. Okay, en gros, c'est ça. Mais là, maintenant, on va regarder aux chiffres parce que je sais que les multimillionnaires, c'est ça qui leur importe le plus. Donc, on voit je vous décris un peu là, les chiffres de l'entreprise. On voit que dans les années 30 après Jésus-Christ, le nombre de personnes touchées est passé de 12 à environ 3000 là, en quelques années. Et puis, aujourd'hui, on est à 2,38 milliards, soit 30% de la population mondiale quand même. Hein? Fait que une belle expansion, moi, je trouve que ça mérite là, qu'on investisse dans ce beau projet-là. Et ce qu'un multimillionnaire, comme vous direz après ce beau discours, c'est peut-être, OK, mais comment ça peut fonctionner? Tout ça, c'est gratuit. Tout ça, c'est gratuit. Ça marche comment? Comment est-ce que le projet peut être viable? La réponse, c'est la générosité. La générosité. La générosité des investisseurs qui donnent leur vie pour Jésus. Et ce matin, je veux vous montrer à quel point la générosité, en fait, est vraiment au cœur du plan de Dieu. Dans tout le grand projet de Dieu, la générosité est vraiment essentielle. Pourquoi? Parce que, en fait, la générosité, c'est toujours une grâce. C'est toujours une grâce. Quand Dieu est généreux envers nous, il ne nous donne pas ce que nous méritons. Il est généreux envers nous. Comme il le fait, entre autres, en envoyant son Fils Jésus, on s'entend. La générosité, c'est pas une transaction où on s'attend à quelque chose en retour. Okay, même si tu donnes aussi gros que 10 000 $ à ton ami, okay, si tu lui dois, là, t'es pas particulièrement généreux. On s'entend? Mais si tu lui donnes 10 $ juste pour le fun, comme ça, ben c'est de la générosité, même si c'est 10 $ et beaucoup moins que 10 000. Le modèle d'affaires de Dieu se résume en deux phrases. Dieu donne, alors je donne. Okay, on le voit ici sur la diapo. Et au cœur de ce modèle se trouve la générosité, la grâce. La grâce de Dieu envers nous et nous envers Dieu et envers les autres. Dieu a été généreux en donnant tout pour nous. À notre tour, nous voulons être généreux. En tout point, en donnant notre vie, notre temps, notre énergie et aussi notre argent. On a dit qu'on parlait business aujourd'hui, alors c'est le thème de la prédication aujourd'hui. On va parler d'argent ensemble et de générosité, bien entendu. Et je sais que l'argent, c'est pas vraiment un sujet dont on aime discuter en général, tu sais, autour d'un petit café. C'est rare, c'est plutôt un sujet tabou hein, dans la société, entre amis, entre frères et sœurs, et dans l'Église aussi, entre frères et sœurs spirituels, et aussi à la table familiale. L'argent, c'est comme les problèmes. On en a tous, mais on veut pas trop en parler. OK? On s'entend? Pourtant, l'argent, ça devrait pas être un sujet tabou entre nous ni dans l'Église. Pourquoi? Premièrement, parce que la Bible en parle abondamment. Est-ce que vous saviez que la Bible comporte 500 versets sur la prière, moins de 500 sur la foi, mais plus de 2000 sur l'argent? C'est surprenant, hein? 15% de tout ce que Jésus a jamais enseigné concernait l'argent, et ça, c'est plus que ce qu'il disait sur le ciel et sur l'enfer combinés. Le tiers, près du deux tiers, non, même pas, deux tiers des paraboles de Jésus font référence à des ressources financières. C'est fou, c'est vraiment surprenant. Donc, à celui qui pense qu'on ne devrait pas trop parler d'argent à l'Église, ben je réponds en fait qu'on devrait peut-être en parler un peu plus pour être mieux outillé, plus sage, plus éduqué par rapport à l'argent, dans une perspective biblique, en fait. L'autre raison pour laquelle l'argent ne devrait pas être tabou, c'est qu'on en a tous, OK? On en a tous. Hey, on utilise l'argent là plusieurs fois par jour. Ça prend de l'argent pour manger, pour se déplacer, pour s'éduquer, pour s'habiller, pour acheter, pour faire aussi tout ce qu'on fait à l'Église. C'est notre générosité qui fait que j'ai pu préparer une prédication cette semaine puis que je peux vous la livrer aujourd'hui. C'est notre générosité qui paye le local dans lequel on est actuellement. C'est notre générosité qui permet de subvenir aux plus démunis aussi. Et notre générosité, elle va permettre aussi de faire des très beaux projets qui s'en viennent pour l'Église Nouvelle Vie Charlevoix. Okay? On a vraiment hâte, il y a des beaux projets qui s'en viennent pour nous. On a vraiment hâte de vous les partager bientôt, ça s'en vient. Donc, c'est de l'argent aussi qui permet de faire ces choses-là. Entre autres, on s'entend là, vous savez que ça prend l'esprit, ça prend la prière, vous comprenez bien mon point ici, mais on a besoin, Dieu veut qu'on utilise nos ressources, toutes nos ressources, que ce soit en temps, en énergie, mais aussi en argent. Ça fait partie des ressources que Dieu nous donne. Troisième raison pour laquelle l'argent ne devrait pas être tabou dans l'Église, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous voulons être libres et détachés par rapport à l'argent. Et je sais que souvent, c'est parce qu'il y a eu des torts. L'Église a eu des torts parfois, avec des abus, des fraudes même. Mais mettons ça de côté. On peut pas rester bloqué dans le passé. Il faut se libérer de ses arrière-pensées, de nos attitudes sur la défensive, de nos soupçons, parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Et je prie vraiment pour que ce message contribue à ce qu'on ait une vision saine et biblique de l'argent. Donc, prions ensemble avant de se plonger, tels des dragons enflammés, dans le message. Prions ensemble. Seigneur, viens par ton esprit parler à nos cœurs, Seigneur. On veut ouvrir ta parole avec crainte, avec révérence. Viens nous parler, viens enlever dans notre cœur ce qui doit être enlevé, viens rajouter dans notre cœur ce qui doit être ajouté, Seigneur. On te laisse toute la place par ton esprit, Seigneur. Nous sommes à ton écoute. Je te prie pour ta liberté aussi ce matin, ta liberté, Seigneur, et ta joie qu'on puisse repartir avec ta joie, la joie de donner, la joie d'être généreux, la joie de donner à cause que tu nous as tellement donné, Seigneur. Sois glorifié par ce moment. Amen. Et l'argent n'était pas tabou aussi à l'époque de Paul, de l'apôtre Paul, parce qu'il va en parler dans les chapitres 8 et 9 de la deuxième lettre aux Corinthiens, alors qu'il va les encourager à être généreux de leur argent et à entrer dans le modèle d'affaires de Dieu par leur générosité. Ce matin, à partir de ce passage, je vais répondre à quatre questions, comme on voit sur notre diapo. Pourquoi je donne? Combien je donne? Ah, ça, je sais que c'est la question que vous attendez tous. Combien je donne? Comment je donne? Et finalement, pour qui je donne? OK, on va voir ces quatre questions-là. Donc, première question, pourquoi je donne? Un peu de contexte avant de commencer pour bien comprendre notre texte ce matin. Au chapitre 8 et 9, l'apôtre Paul écrit à l'église de Corinthe parce que, en fait, il récolte de l'argent pour les chrétiens plus pauvres de Jérusalem. Et il prépare en fait depuis plus d'un an une collecte de toutes les églises qu'il a fondées pour pouvoir donner finalement aux églises plus pauvres, dont Jérusalem ici. Et c'est dans ce contexte-là que nous lisons donc dans 2 Corinthiens 8, 7 et 9, Paul va s'adresser à l'église de Corinthe en disant ceci. « De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. » Pour nous, donc pour Paul et ses collaborateurs. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Ici, l'acte de grâce dont on parle, c'est la collecte pour Jérusalem. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour. Mettons une chose au clair en commençant. OK, ce matin, je ne vous donnerai pas d'ordre. C'est bon? J'essaierai pas d'exercer une pression ou de vous manipuler par des émotions, mais ma job, c'est de prêcher la parole de Dieu et que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre après dans chacun de nos cœurs. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre cœur, de votre amour. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, alors que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Pourquoi je donne? Pour quelle raison est-ce que je donne généreusement à l'Église, à mes frères et sœurs chrétiens, aux gens dans le besoin, aux personnes de mon entourage? Je donne en réponse au don gracieux que Dieu a fait de son Fils. En réponse à Christ qui s'est offert pour nous, qui a tout donné, qui s'est fait pauvre jusqu'au à l'extrême pour que nous soyons riches. Ça devrait être une assez bonne raison, je crois, pour donner. Et Paul dit qu'il veut éprouver la sincérité de l'amour des Corinthiens en les encourageant à être généreux. C'est ce qu'il veut faire. Et l'expression grecque utilisée ici, c'est « il faut que les bottines suivent les babines ». OK? En d'autres termes, tu dis aimer Dieu, tu dis être reconnaissant pour ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que tes bottines et ton portefeuille te suivent? Quel engagement prends-tu pour Dieu en réponse à ce qu'il a fait pour toi? Quelles ressources en temps, en argent, en énergie es-tu prêt à investir dans le royaume de Dieu en étant généreux envers l'Église et aussi envers les gens autour de toi? Pourquoi je donne? Parce que Dieu donne. Et quand je réfléchissais à ce point-là, ça me faisait penser à quand Julien faisait des concerts, donc il faisait des tournées en France, et à la fin des concerts, à la fin de la soirée, il avait une table avec des CD à vendre finalement, des CD à vendre de la musique qu'il faisait. Et puis, on voit toutes sortes de mentalités hein, à ce moment-là, et celle que j'avoue, je trouve bien drôle, c'est celle du gars qui arrive, qui met une main sur l'épaule de Julien, puis qui dit « Hey, c'est vraiment bien ce que tu fais, ça m'a vraiment touché, j'ai vraiment passé un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Écoute, je crois vraiment en toi, mon frère, je t'encourage vraiment, c'est magnifique. » Et là, Julien qui dit « Ah, merci, c'est vraiment fin, ça me touche beaucoup ce que tu dis, es-tu intéressé à acheter mes CD? » Ah ben non, mais ils sont gratuits sur Spotify de toute façon. Fait que en tout cas, je t'encourage, mon frère. Lâche pas. OK, pour être honnête, ce qui encouragerait concrètement Julien, OK, il lui permettrait de poursuivre dans ses projets. Oui, c'est ta main sur son épaule. C'est aussi tes prières, évidemment. Mais c'est aussi de l'argent. On n'a pas le choix. Faut bien que ça s'imprime, ces CD-là. Si tu as les moyens, évidemment. Mais si tu aimes quelqu'un, si tu crois en quelque chose, tu t'arranges pour que ça paraisse. C'est comme ça même au sein d'un mariage ou des relations entre amis. Pour que les bottines suivent les babines. Pourquoi je donne? Parce que le Dieu de l'univers a tout donné pour toi. OK, là on arrive à la question que tout le monde se pose. OK, mais combien je donne en tant que chrétien à l'Église? Combien? C'est quoi le montant? Et si tu fréquentes l'Église depuis quelques années, c'est certain que tu as déjà entendu parler du concept de la dîme, évidemment. La dîme vient de 10, parce que dans l'Ancien Testament, Dieu ordonnait un pourcentage de 10% pour certains dons. Il y avait, par exemple, la dîme des Lévites qu'on retrouve dans Lévitique 27, 30-33. Les Lévites, c'est eux qui étaient chargés du service du temple. On pourrait comparer ça aux pasteurs, finalement, des temps modernes. Ils travaillaient dans le temple à différentes tâches. Et Dieu avait ordonné que le peuple donnerait 10 % de leur récolte. Souvent, les ressources qu'ils avaient, c'était des agriculteurs, donc c'était des récoltes, pour subvenir aux besoins des Lévites. Et donc, c'est un peu comme la part que l'Église pourrait donner aux pasteurs pour apporter l'enseignement et tout ça. Mais il y a une autre dîme aussi, la dîme des festivités, mentionnée dans Deutéronome 12, 10 à 18. Cette dîme-là devait être amenée au temple, encore une fois sous forme de repas, on peut dire, comme un sacrifice. Et dans le fond, l'Israélite, sa famille, les serviteurs et les sacrificateurs mangeaient ce repas-là ensemble. Il y a aussi la dîme des pauvres qu'on appelle, c'était dans Deutéronome 14, 28 à 29, donnée sur le revenu de la troisième année et destinée aux Lévites, aux étrangers, à l'orphelin, à la veuve. Donc, si tu fais un calcul un peu vite, là, les Israélites devaient donc pas donner, comme selon la loi, un minimum de 10 %. Non, ils devaient donner 23 %. Et ça, c'est sans parler de la mention des dons volontaires que les Israélites pouvaient faire quand ils voulaient, finalement. Puis ça, c'est nommé à de multiples reprises. Et là, j'entends penser certains, oui, ce matin, c'est un don, je vous entends penser jusqu'ici, certains. OK, mais là, moi, je m'attendais à peut-être donner 10 %, là, tu me dis 23. J'aimerais te dire, pasteur Élise, que nous ne sommes plus sous la loi de l'Ancien Testament. Que Jésus a accompli la loi, alors à cause de Jésus, je n'ai plus besoin de donner 23 %. Amen! Et voici ma réponse. Selon la parole de Dieu, c'est vrai que Jésus a accompli la loi. Amen! Amen! Par contre, malheureusement pour toi qui souhaiterais trouver le montant minimum pour plaire à Jésus, je caricature. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, en accomplissant la loi, Jésus n'a pas abaissé les standards. Au contraire, il les a élevés. OK, on a des exemples de ça. Regardez ce que Jésus dit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 5, au verset 27. Vous avez appris qu'il a été dit, la loi dit ceci, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Verset 38, vous avez appris qu'il a été dit, la loi, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Dernier exemple, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Et j'ajouterais, vous aviez appris qu'il a été dit, tu donneras 23 % de tes revenus, mais moi, je vous dis, tu donneras autant que tu peux pour honorer ce que je fais pour vous. On comprend ici le principe. La loi, c'est quoi? C'est un gars qui doit 40 $ à son ami parce qu'il a oublié son portefeuille au restaurant. Ils sont allés prendre un café, 40 $, c'est un petit peu exagéré. Au Starbucks, on va dire au Starbucks. OK, 40 $, il oublie son portefeuille, là, il doit 40 $ à son ami. Pendant la semaine, il se met à réfléchir à ça, puis il se dit, ouais, attends, je vais l'appeler finalement. Ouais, salut Johnny, tu sais, je te dois 40 $, mais dans le fond, on a pris ma voiture pour se rendre jusqu'au Starbucks. Fait que dans le fond, on peut dire 35. Aussi, tu sais, la dernière fois, j'ai acheté un sac de chips avec toi, là, fait que on peut dire peut-être au dépanneur, tu sais, je te l'ai payé, mais on peut dire peut-être 31. Aussi, ben tu sais, le chandail que tu portais, ben c'était un cadeau que j'avais fait à ta fête. Fait que finalement, c'est toi qui me dois 5 $. C'est bon? Fait que tu me le donneras la prochaine fois. C'est ça, la loi. Tout calculé pour savoir le montant exact que tu dois à Dieu. Combien donner? Ben, c'est la seule question à laquelle je pourrais pas répondre ce matin. Parce que cette question-là, c'est ça, c'est pas moi qui peux la donner. Je peux pas te fixer un montant. Je peux te rappeler, par exemple, une vérité importante. Dieu nous donne son esprit. Nous sommes maintenant sous la loi du Saint-Esprit. Et si ce n'est plus la loi de l'Ancien Testament qui nous pousse à donner, c'est l'Esprit, mais l'Esprit de Christ qui a donné tout pour nous. L'Esprit de liberté, l'Esprit de grâce, l'Esprit d'amour. En résumé, à l'aide de l'Esprit de Dieu. Le but, c'est pas de trouver le minimum à donner, mais d'offrir notre maximum. Amen. Et même si je peux pas te dire combien donner, je veux te donner quand même deux clés concrètes ce matin pour apprendre à marcher selon l'esprit par rapport à l'argent. Okay, premièrement, donne plus. Premièrement, tout simplement, donne plus. Si tu donnes rien à l'église, ok, je te conseille pas de donner 20, 25% de ton salaire la semaine prochaine. Mais non, commence avec 1%. Commence avec 1%. Donne plus que hier. Si tu donnes 10, donne-en 12. Si tu donnes 20, donne-en 25. Ou parraine un missionnaire. Donne du temps pour être bénévole. Ouvre-toi un compte d'épargne pour accumuler des sous pour que quand quelqu'un de ton entourage va être dans le besoin, tu puisses lui faire un don. Que tu puisses avoir cette capacité-là de lui faire un don ou d'investir dans un beau projet. Quoi que tu donnes aujourd'hui, essaie de donner plus demain. Et dans notre passage en 2 Corinthiens, Paul poursuit au chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. En gros, là, plus tu es généreux, plus tu vois des fruits. Plus tu donnes autour de toi, plus tu vois les beaux sourires et la reconnaissance pour ce que ça procure autour de toi. Plus tu es généreux envers l'Église, plus tu sais, et des fois c'est par la foi, hein, parce que concrètement, tu les vois pas les fruits sur le coup. Mais plus tu sais, plus tu peux avoir la foi que tu aides à faire avancer le royaume de Dieu, à récolter des fruits éternels. Deuxième clé pour marcher selon l'esprit, donne le meilleur. Donne le meilleur. Le milliardaire Warren Buffett va dire ceci. N'économisez pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépensez ce qui reste après avoir économisé. Okay, pour nous ce matin, ne donne pas ce qui reste après avoir dépensé, mais dépense ce qui reste après avoir donné. Okay, la Bible parle du même principe quand elle parle d'offrir des offrandes à Dieu. Proverbes 3, 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers, les prémices. Là, on parle ici de récolte, de tous tes produits. Alors tes greniers, en plus, il y a une belle promesse. Les fruits, justement, qui abondent. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. En d'autres termes, donne pas juste les miettes à Dieu, mais donne ton meilleur. Les prémices, les premiers fruits de tes récoltes. Okay? Et en termes modernes, ça veut dire de donner le jeudi matin de ta paye. OK? On s'entend-tu? Sinon, là, l'argent, je sais pas trop hein, c'est quoi qui se passe avec l'argent. Elle se dépense tout seul, c'est moi ou ça se dépense tout seul ce soir-là. Mais donc, c'est ça, de prendre une part pour la donner à Dieu. Pas juste à la fin parce que on le dépense l'argent, on en a besoin, on le dépense de toute façon. Et Dieu va pourvoir, Dieu va pourvoir, Dieu va pourvoir, c'est ce qu'on va voir plus tard. Au-delà de ces principes-là, au-delà des montants, une des choses qui importe le plus pour Dieu, c'est pas combien tu donnes, mais c'est comment tu donnes. C'est notre troisième question ce matin. L'apôtre Paul nous montre quelle attitude à avoir. Dieu se plaît davantage à quelqu'un qui donne moins avec joie que quelqu'un qui donne plus avec amertume et recul. Dieu est toujours plus, c'est dans tous les domaines, il est toujours plus intéressé par tes intentions, tes motivations et ton cœur plutôt que tes comportements. Parfois même, des comportements qui semblent être vraiment bons, on peut le faire avec un cœur qui veut être vu, avec un cœur qui cherche quelque chose en retour par rapport aux autres. Donc, le comportement, à la limite, il révèle pas nécessairement notre cœur. Paul dit au verset 7 que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Avec joie. Le texte nous parle de trois attitudes à éviter et de celles qu'on devrait avoir. Okay, premièrement, Dieu veut qu'on donne sans regret. Okay, imagine un peu ton ami te donne ton cadeau de fête, okay, mais tu vois qu'il te donne un peu à reculons, okay, là, qu'il dit... Ouais, ben c'est ça, bonne fête. En tout cas, il m'a coûté pas mal cher ton cadeau, là. Si jamais tu l'aimes pas, tu me le diras, là, j'irai me faire rembourser. OK? Bonne fête! Plus ou moins agréable, on s'entend? T'es mieux de pas être généreux si c'est pour donner avec tristesse et regret. OK, on peut aller jusque-là. Deuxièmement, Dieu veut que tu donnes sans contrainte. Le même ami Le même ami, ouais, c'est un bon ami, celui-là. L'année d'après, il arrive avec ton cadeau de fête, puis il dit, ouais, ben, je te donne ton cadeau, là, mais en tout cas, c'est parce que tu m'en as donné un à ma fête aussi, là, fait que je me sentais un peu mal. Fait que, tiens, bonne fête, voici ton cadeau. On s'entend? Donc, avec contrainte et pression. T'es mieux de ne pas être généreux que si tu donnes par culpabilité, contrainte, pression. Troisièmement, Dieu veut que tu donnes sans inquiétude. Okay? Dans le reste du passage, au verset 8, on lit ceci. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, okay, là, on y va fort, là, toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. En d'autres termes, ne t'inquiète pas. Dieu va toujours pourvoir à tous tes besoins. Et tu vas même avoir plus pour pouvoir donner autour de toi. Si tu donnes, Dieu va pourvoir de toute façon. Il va pourvoir à tes besoins en tout temps. Et ça, on l'a vécu concrètement, Julien et moi. On est vraiment... Je confirme, on témoigne de ça dans nos vies. Encore une fois, là, le même ami, là, peut-être que tu devrais changer tes fréquentations. Là. L'année d'après, il te donne un cadeau avec tremblement, puis il dit, tiens, j'espère que tu vas aimer ton cadeau. Je ne pourrai peut-être pas manger à la fin du mois, mais tiens, je te le donne quand même. OK, on s'entend. C'est pas tellement réjouissant. OK, malaise encore une fois. Donc, oui, t'es mieux de ne pas être généreux si c'est pour donner avec tristesse, regret, contrainte et inquiétude. Mais je vais te dire qu'est-ce qui est encore mieux, ben, c'est de donner avec joie. Avec joie. Selon nos moyens. On n'a pas tous les mêmes moyens. C'est pas le montant qui compte. Mais c'est de donner avec joie. Il n'y a rien de plus beau qu'un ami qui te donne un cadeau à ta fête puis qui est quasiment plus excité que toi, là. Tu sais? Comme, ah, oh, j'ai tellement hâte que tu l'ouvres, là. En tout cas, j'espère que tu vas aimer ça. Tu sais, on voit un peu l'idée. Et Julien et moi, on a un couple d'amis, c'est Mylène et Antoine, des amis très chers à nos cœurs. Mylène et Antoine jouent à Envy Worship. Mylène est directrice du département de musique à Nouvelle-Vie. Antoine aussi, c'est un de mes amis d'enfance, donc on est très proches d'eux. Et c'est dans les personnes les plus généreuses qu'on connaît, en fait. Et je me rappelle, à ma fête, Julien et moi, on allait souper chez eux et dormir chez eux aussi. Et là, on rentre nos bagages et tout. Et là, on fait juste comme rentrer. On est quasiment encore nos manteaux. Et là, je vois Mylène à côté de moi, toute excitée. Fait que là, elle veut, dans le fond, là, me donner mon cadeau. Ils m'ont acheté un cadeau pour ma fête. Je sais pas si j'ai dit que c'était pour l'occasion de ma fête. On n'a même pas enlevé nos manteaux quasiment. Et là, gros sourire, fait que je dis, bon, ben, coudonc, OK, ben, allons-y, on va ouvrir mon cadeau. Fait que dans les premières minutes qu'on est rentré, j'ai ouvert mon cadeau. Et c'était d'ailleurs, c'est les chaussures que je porte. J'ai eu des commentaires ce matin. Fait que c'était vraiment joyeux, c'était vraiment cool. J'ai été autant émue par son cadeau que par son attitude. Quelle merveille de recevoir un cadeau comme ça. Et c'est impossible de refuser un cadeau offert de cette façon-là. Même si c'est quasiment insultant de refuser un cadeau comme ça, tu peux pas refuser. Le cœur de notre Père se plaît à recevoir les cadeaux de ses enfants donnés avec joie. Et ça se fait seulement avec l'aide de son esprit, parce que je comprends, il nous arrive tous à avoir de la difficulté de vouloir donner avec joie. Mais Dieu nous donne son esprit, c'est pour ça qu'il nous donne son esprit, pour nous aider à avoir la bonne attitude et aussi à sonder nos cœurs. Dieu peut te montrer par son esprit ce qui te retient peut-être d'être généreux, ce qui t'attache à l'argent. Jésus est vraiment radical à propos de l'argent, parce qu'il y a une réelle puissance derrière l'argent. Jésus va personnifier l'argent comme étant un Dieu, carrément. Matthieu 6, 24. « Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » C'est fou, c'est incroyable. Il y a des liens qui peuvent être créés avec l'argent, par rapport à l'argent. C'est sérieux. Et dans notre société de consommation, on est vraiment à risque d'être pris dans tout ça. C'est vraiment un risque pour nous, pour notre société. C'est pour ça que Jésus va dire aussi, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, au verset 21. En d'autres termes, ce dans quoi tu investis, là où est ton portefeuille, carrément, démontre ce à quoi ton cœur est attaché. Ton cœur est attaché. Avant ton comportement, Dieu veut ton cœur. Demande-lui peut-être pourquoi tu trouves ça si difficile de donner. Et il va venir te renouveler. Il va venir te purifier, purifier ton cœur et tes pensées pour que tu puisses être libre, libre de donner généreusement. On a répondu donc ce matin aux questions suivantes. Pourquoi donner? Combien donner? Comment donner? Et finalement, notre dernière question, pour qui donner? Pour qui donner? Pour Dieu. Pour Dieu. Nous sommes généreux pour donner gloire à Dieu, pour rendre gloire à Dieu. Regardez bien comment Paul termine le chapitre 9 et conclut justement la discussion sur la collecte pour les chrétiens de Jérusalem, au verset 12 et 13. Les services de cette collecte ne pourvoient pas seulement aux besoins des chrétiens, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'Évangile de Christ et votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Autrement dit, non seulement les chrétiens vont recevoir les dons, mais aussi ils vont remercier, oui, l'Église, mais ils vont également rendre gloire à Dieu par des prières de reconnaissance. Par ta générosité, en fait, tu deviens le canal pour rendre gloire à Dieu, en pourvoyant aussi à son royaume. Et j'ai fait personnellement l'expérience de ça il y a quelques années. Encore une fois, je mets nos beaux amis en valeur parce que c'est vraiment des exemples de générosité, Mylène et Antoine. Et on les recevait il y a quelques années. Et notre situation financière elle craignait, comme disent les Français. Donc, on était très précaires et on les avait avertis. On avait dit, ben oui, vous pouvez venir chez nous, mais tu sais, on va avoir de la difficulté là, à vous offrir un souper. Vous savez à quel point ça peut coûter cher, hein, inviter quelqu'un à souper là. Donc, on leur a dit honnêtement, ben oui, ça va nous faire plaisir, mais bon, on n'a pas beaucoup de moyens, tu sais. Et on dit, inquiétez-vous pas, on s'en occupe. Et là, on les voit arriver en voiture. Ils commencent à dépacter leurs bagages. Et en fait, ce qu'ils dépactent, c'est un épicerie, mais comme le plus géant épicerie que tu as jamais vu du Costco. OK? Et c'était abondant. C'était des beaux produits, des produits festifs. Pas juste du Kraft Dinner, mais amène pour le Kraft Dinner. Mais, tu sais, non, pas genre une... Tu sais, c'est vraiment là, réjouissant comme genre d'épicerie. Et quand ils sont arrivés, justement, même dans la maison, finalement, tout était dépacté. Ils nous tendent une enveloppe et puis ça venait des parents d'Emilienne. Et il y avait un don en argent à l'intérieur, ça nous permettait de payer notre loyer. Et je me rappelle, comme si c'était hier, en ouvrant l'enveloppe, je me suis mise à pleurer, évidemment. J'étais vraiment émue et je me suis dit, c'est les premiers mots que j'ai dit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pourtant, c'était eux qui me faisaient le don. Merci Seigneur. T'as pourvu pour nous. Par leur générosité, ils sont devenus le canal pour pourvoir pour le royaume de Dieu et pour lui rendre gloire. C'est fou. Est-ce que t'as envie, toi aussi, d'être l'intermédiaire pour la gloire de Dieu? Amen. Amen. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. En terminant, je dois vous avouer quelque chose. Je vous ai menti au début du message. Je vous ai menti. Écoute, je me repens. Je vous ai dit que vous étiez assis dans la chaise des dragons, mais la chaise des investisseurs. Mais en fait, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Ouais, finalement, vous êtes pas multimillionnaire. Désolée de vous l'apprendre, là. Vous aviez une belle tête de multimillionnaire, mais ça le prend le portefeuille aussi. Non, le vrai investisseur, le seul investisseur, c'est Dieu. C'est Dieu, créateur et maître de l'univers. En fait, j'irai même plus loin. C'est Dieu qui investit en toi et moi. Et il te laisse la responsabilité et la liberté de gérer son portefeuille. Dieu dit ceci dans le livre du prophète Agée 2:8. L'argent m'appartient. L'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Hey, c'est pas rien. Et encore dans 2 Corinthiens 9, 10 et 11, Paul dit ceci. Que celui qui fournit de la semence au semeur, c'est Dieu ici, et du pain pour sa nourriture, vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité. Pour résumer, là, c'est Dieu qui te fournit la semence. C'est Dieu qui te fournit le pain. C'est Dieu qui te fournit l'argent. Il multiplie tes ressources pour que tu puisses donner avec générosité et faire fructifier tout ce qu'il te confie. Et si tu donnes ta dîme, en fait, là, tu ne donnes pas 10% de ton argent à Dieu, tu gardes 90% de la sienne. On peut le voir comme ça, carrément. Parce que tout vient de Dieu. Alors, c'est la moindre des choses de au moins même penser à être généreux envers lui, envers les projets aussi que Dieu trouve importants, les projets qui sont sur son cœur, les gens qui sont autour de toi, les gens qui souffrent. La serveuse au restaurant qui a fait un bon service. Soyons généreux. Moi, je me suis dit une fois, OK, oui, je vais être généreuse à l'église, je vais être généreuse envers mes frères et sœurs, mais on peut-tu être généreux? Point! Partout! Partout où on va, on peut-tu donner pas le minimum toujours à qui que ce soit? À qui que ce soit, soyons généreux, soyons libres de notre argent. Gérons bien avec intendance, avec sagesse nos biens, évidemment. Mais soyons généreux, ayons un cœur pour donner. Un désir de faire plus d'argent pour donner plus. Amen. Pourquoi donner pour répondre au don gracieux que Dieu a fait de son Fils? En réponse à Christ qui s'est offert pour nous, qui s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Combien donner, oui, donner selon tes moyens, selon l'Esprit de Jésus, qui a une générosité sans limite. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Quoi que tu donnes aujourd'hui, essaie de donner plus demain et donne le meilleur à Dieu. Donne le meilleur à Dieu. Comment donner sans regret, sans contrainte, sans inquiétude, mais avec joie, par l'aide du Saint-Esprit. Pour qui donner? Pour Dieu. Pour que par ton intermédiaire, par ta générosité, la gloire lui soit rendue.